journal est présenté par Antoine de Necher.
Bonjour. Nous maintenons les manifestations contre la loi travail prévues les 23 et 28 juin. Voilà la réponse ce midi des syndicats opposés au texte. Réponse à Manuel Valls qui ce matin affirme dans le JDD, les syndicats devraient annuler eux-mêmes ces rassemblements. Au Royaume-Uni, la campagne électorale reprend ses droits aujourd'hui après le meurtre de la députée Jo Cox. Le camp pro-Brexit tient un meeting en ce moment à Londres et ce soir, le Premier ministre David Cameron est sur la BBC pour défendre une dernière fois le maintien de son pays dans l'Union européenne avant le référendum de jeudi. Franck Madvon nous dira quelle est l'ambiance depuis Londres. En Italie, 9 millions d'électeurs sont appelés à voter dans 120 communes. Aujourd'hui, c'est le second tour des municipales et tous les regards se tournent vers Rome. Qui pourrait élire ce soir Virginia Raggi, 37 ans, candidate du mouvement populiste 5 étoiles. Reportage de Mathilde Imberti à suivre. Puis la face cachée du globe dans 10 minutes. Nabila Hamel nous emmène notamment au Bangladesh, marqué par une vague d'assassinats revendiqué par des islamistes radicaux, et en Turquie aussi, où le nouveau Premier ministre joue l'apaisement avec les pays voisins et avec la Russie. Après avoir menacé de faire interdire les prochaines manifestations contre la loi travail, Manuel Valls demande ce matin aux syndicats d'annuler eux-mêmes ces rassemblements, le prochain étant prévu dès jeudi, le 23 juin. Et le Premier ministre, interrogé par le JDD, ajoute que c'est du bon sens, compte tenu des violences qui ont eu lieu la dernière fois, de l'attentat odieux contre le couple de policiers, mais aussi de la tenue de l'euro. Fin de citation. Écoutez ce midi sur France Culture la réponse de l'une des organisations qui appelle à défiler dès jeudi prochain contre la loi travail, Éric Benel, porte-parole de Solidaires.
Nous sommes tout à fait prêts à annuler l'ensemble des rassemblements et l'ensemble des mobilisations dès lors que le motif qui conduit à ces rassemblements est retiré, c'est-à-dire le projet de loi travail, qui fait l'objet maintenant depuis presque plus de 3 mois et demi à des mobilisations extrêmement importantes qui seront un soutien massif de la population. L'ensemble de ce pays est opposé à ce projet de loi travail. C'est en retirant ce projet que Manuel Valls aura une attitude responsable et raisonnable et permettra l'apaisement dans ce pays. Et après, j'espère, nous espérons, une ouverture d'une vraie négociation pour un vrai progrès social qui puisse répondre aux questions de temps de travail, non pas en les augmentant, mais plutôt en les réduisant, qui puisse répondre aux questions du chômage, répondre aux questions de fond.
Si les manifestations sont maintenues, les organisateurs risquent 7500 euros d'amende et une peine de 6 mois d'emprisonnement. Ça ne vous refroidit pas ?
À 7h, elles ne sont pas encore interdites, les manifestations. Sur l'île de France, les organisations syndicales ont été très claires. La semaine dernière, en lançant leur appel à manifester de Bastille à Nation jeudi, elles ont dit que si la manifestation était interdite, elles la maintiendraient.
Le porte-parole de Solidaires, Éric Benel, interrogé par Cyril Péter pour France Culture. Ce matin, le secrétaire général de la CGT sur iTélé a lui aussi répondu à Manuel Valls. Tant que nous aurons ce problème avec le texte du gouvernement, et je rappelle qu'il y a un soutien très large de l'opinion publique, eh bien les journées d'action seront maintenues, a dit Philippe Martinez. Il fait référence à ce sondage IFOP publié dans Dimanche Ouest France. 60% des Français interrogés considèrent que le mouvement syndical contre la loi travail reste justifié. Quelques réactions politiques. Maintenant, après la décision à l'unanimité du Conseil national du PS hier après-midi d'organiser une primaire pour désigner son candidat à la présidentielle de l'an prochain, une primaire qui serait ouverte à François Hollande pour l'ancienne ministre Elisabeth Guigou qui soutient la ligne de François Hollande. Cette primaire sera, je cite, une belle occasion de clarifier la ligne du parti, elle l'a dit sur France Inter ce matin. Chez les frondeurs, Benoît Hamon estime lui que cette primaire est la respiration démocratique que l'on souhaitait. Cela montre aussi qu'il n'y a pas de candidat naturel. Après 3 jours de suspension, la campagne du référendum pour ou contre le Brexit a repris ce matin au Royaume-Uni. Campagne qui a été endeuillée par le meurtre jeudi de la députée travailliste Jo Cox qui militait pour le maintien de son pays dans l'Union européenne. L'ancien maire de Londres, le conservateur Boris Johnson, le leader des pro-Brexit, tient d'ailleurs en ce moment même à Londres un meeting. Vous y assistez, Franck Madvon.
Dans le majestueux bâtiment au bord de la Tamise où Boris Johnson s'exprime aujourd'hui aux côtés d'autres leaders eurosceptiques devant des centaines de militants, l'humeur reste optimiste. Les partisans d'une sortie de l'UE accordent dans l'ensemble peu de crédit au dernier sondage qui replace le Remain, le statu quo, légèrement en tête des intentions de vote. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact du meurtre de la députée pro-UE Jo Cox sur la campagne et sur l'issue du référendum, mais des commentateurs estiment que le drame pourrait favoriser le camp du In. Il sera en tout cas difficile pour les eurosceptiques d'adopter la même rhétorique anti-élite, anti-immigration qui leur a permis de convaincre beaucoup d'indécis et de prendre l'avantage la semaine dernière dans les sondages. Le ton de la campagne pourrait changer. Les apparitions médiatiques de plusieurs leaders des deux camps aujourd'hui seront suivies avec attention. David Cameron sera ce soir l'invité de la BBC. Ce matin, dans le Sunday Times, il parle du choix existentiel de jeudi. Si on sort de l'UE, dit-il, il n'y aura pas de retour en arrière.
Merci Franck Madvon. Thomas Mayer, le suspect du meurtre de Joe Cox, est actuellement incarcéré dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, au sud-est de Londres. Il doit de nouveau comparaître demain devant un tribunal. Lui, dont les propos provocateurs tenus hier devant un juge à Londres accréditent la thèse des liens avec l'extrême droite, puisqu'il avait lancé « Mort aux traîtres, liberté pour la Grande-Bretagne ». En Italie maintenant, le mouvement 5 étoiles a déjà plus de 160 députés depuis 3 ans et dirige aussi 2 villes moyennes, Parme et Livourne. Mais après le second tour des élections municipales aujourd'hui, le parti populiste fondé par Beppe Grillo pourrait bien frapper un coup encore plus fort en s'adjugeant tout simplement la mairie de la capitale, Rome. La jeune candidate du mouvement 5 étoiles, l'avocate Virginia Raggi, qui a recueilli 35% des voix au premier tour, est favorite. Elle compte 10 points d'avance sur le candidat du parti démocrate Roberto Giacchetti. Les bureaux de vote à Rome sont ouverts depuis ce matin, comme dans toute l'Italie. Mathilde Imberti, vous êtes rendu dans la périphérie romaine où le mouvement 5 étoiles prospère.
Plus de 2 millions de Romains sont appelés aux urnes aujourd'hui. La capitale italienne est vaste et c'est en périphérie, 20 km du centre historique, que Virginia Raggi a atteint ses plus hauts scores au premier tour. C'est le tiers-monde ici, se lamentent des électrices du quartier de Tor Bella Monaca. Pas de travail, des routes mal entretenues, des écoles publiques en piteux état. Elles votent toutes pour la candidate du mouvement 5 étoiles. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, maintenant on essaye la nouveauté. Vu l'état de la ville, de toute façon, il y a tellement à faire. La sécurité, la propreté. Voyons ce que Raggi sera capable de faire si elle est élue. C'est un peu comme la veille de Noël, vous voyez, on attend de voir ce que le Père Noël va nous apporter cette fois-ci. Une femme pourrait accéder à la mairie de Rome pour la première fois. C'est un argument de plus pour cette jeune mère de famille. Ici, dit-elle, ce sont les femmes qui portent les galères au quotidien. Une femme, c'est mieux. Je pense qu'elle aura plus de cran. Elle se fera moins influencer. Mais bon, rien n'est gagné ici. Les bureaux de vote ferment à 23h ce soir à Rome et dans toutes les autres villes concernées par ce deuxième tour des municipales.
Un reportage de Mathilde Imberti, correspondante permanente de France Culture à Rome. En Belgique, 3 hommes ont été inculpés hier soir de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Ils avaient été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi dans une vaste opération policière menée dans tout le pays. Ces 3 hommes sont également inculpés de participation aux activités d'un groupe terroriste et placés en détention. On n'en sait pas plus sur leurs intentions précises et l'éventuelle imminence d'un attentat. En France, le clou de la vente sera un 45 tours de Cybarette, le chanteur de Pink Floyd, proposé à 7 500 €. Les collectionneurs devraient se l'arracher tout à l'heure à partir de 14h à la Maison de la Radio à Paris, car Radio France organise une grande vente aux enchères de 8000 vinyles issus de sa propre discothèque. Mais au-delà de ces quelques exceptions, il y en a évidemment pour tous les budgets et tous les goûts, de la musique classique au rock, du rap au BO de film, répartis en 424 lots. C'est le journaliste Bertrand Dical qui animera cette vente tout à l'heure.
Il y a vraiment de tout sur un très très large spectre. Quand on voit un lot comme le lot avec une trentaine de 33 tours à roulis de musique cajun, c'est extrêmement émouvant pour les gens qui aiment cette musique. Il y a un côté madeleine sonore qui est extrêmement important, plus des lots qui sont extraordinairement bien constitués. C'est vrai que le lot dans lequel il y a des disques des Beatles, de Dylan, des Rolling Stones et de Pink Floyd, on les a tous déjà, une fois, deux fois, trois fois quand on est collectionneur. Mais ça, c'est une espèce de discothèque idéale faite par la radio. C'est le premier pressage français de ces albums qui ont une espèce de densité sentimentale, culturelle, d'une force absolument incroyable.
Bertrand Dical, interrogé par Corinne Pellissier. Rassurez-vous, il restera encore des disques à Radio France après cette vente aux enchères cet après-midi, puisque la collection compte 450 000 vinyles au total. Radio France qui explique que le produit de la vente permettra d'enrichir son fonds sur le plan éditorial et de poursuivre la numérisation des disques. La face cachée du Globe à 12h39. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Antoine. 8 opposants chiites de Bahreïn ont écopé jeudi de 10 ans de prison assortis d'une déchéance de leur nationalité. La veille, c'est le principal mouvement d'opposition chiite, le WIFAQ, qui a été suspendu par les autorités de l'Émirat. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit consterné par ces mesures. Il s'apprêtait à cacher 9 millions de dollars et un peu plus de 150 000 euros dans un monastère des environs de Buenos Aires. L'ex-secrétaire d'État aux travaux publics du gouvernement Kirchner a été pris en flagrant délit. C'est le nouveau scandale de corruption qui capte en ce moment l'attention des Argentins. 100 000 dignitaires musulmans du Bangladesh ont signé mardi une fatwa contre les meurtres de membres de minorités religieuses et de défenseurs de la laïcité. Dhaka, impuissant jusque-là, se dit décidé à mettre un coup d'arrêt à cette vague d'assassinats. Jérémy Caudron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'INALCO, spécialiste du Bangladesh. D'abord, comment explique-t-on cette violence ?
Disons qu'elle est due principalement à une polarisation de plus en plus forte de la vie politique au Bangladesh, entre d'un côté, je dirais, un courant séculariste, un courant défenseur d'une certaine forme de laïcité, je dirais, et de l'autre, des partis islamistes qui ont été extrêmement fragilisés et attaqués, en fait, par le gouvernement en place depuis 2009, en gros.
Est-ce que ce sont les partis islamistes traditionnels ou d'autres groupes extrémistes qui sont à l'origine de ces assassinats ?
Ce ne sont pas les partis islamistes traditionnels. Enfin, sociologiquement, on retrouve quand même une certaine partie radicale, disons, de cette mouvance islamiste, notamment composée d'étudiants qui faisaient partie du principal parti islamiste du Bangladesh. Et donc, qui ont rejoint ces organisations, je dirais, plus radicales. Et l'organisation dont on parle actuellement, Jamaatul Mujahideen Bangladesh, donc JMB, cette organisation existait déjà dans les années 2000. Elle se réclamait des thèses d'Al-Qaïda et elle avait été, je dirais, à ce moment-là, influente au Bangladesh avant d'avoir été freinée par le gouvernement d'alors. Et là, elle refait surface, cette fois-ci, en se revendiquant notamment de l'État islamique.
Alors, les autorités ont arrêté 8000 personnes au moins ces derniers jours, mais en même temps, des organisations comme Human Rights Watch les accusent d'en profiter pour mener également des arrestations pour faire taire les opposants.
Oui, tout à fait. C'est ce qui a fait notamment que le gouvernement n'avait pas jusque-là pris les mesures nécessaires et n'avait pas affronté le problème de ces violences radicales, puisqu'il était totalement tourné vers plutôt un affaiblissement de l'opposition, un affaiblissement également de la liberté d'expression au Bangladesh. En fait, le gouvernement de la Ligue Awami joue un double jeu où, d'un côté, il veut affaiblir au maximum l'opposition conservatrice et islamiste, et d'un autre côté, ne pas trop froisser, disons, les sentiments religieux de la population en défendant totalement, par exemple, les blogueurs militants athées. Donc, jusqu'à présent, le gouvernement avait été vraiment très frileux pour défendre ces blogueurs militants. Il avait, en gros, renvoyé ces blogueurs militants à leur responsabilité personnelle, en gros en disant, écoutez, vous l'avez bien cherché, en s'exprimant, en exprimant des messages qui sont aussi hostiles à la religion majoritaire.
Merci à vous, Jérémy Caudron. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'INALCO. Merci.
Merci.
Ankara et Moscou tentent de se rabibocher après l'épisode de l'avion russe abattu par la Turquie à la frontière syrienne. Le nouveau premier ministre turc Binali Yildirim adresse également des signaux d'apaisement aux autres pays de la région avec lesquels les relations s'étaient tendues. C'est une correspondance d'Alexandre Billette à Istanbul.
Zéro problème avec les voisins, c'était la doctrine de l'AKP en arrivant au pouvoir en 2002. Sauf que les problèmes se sont multipliés ces dernières années. Crise avec la Russie, rupture avec l'Égypte, froid avec l'Iran, avec l'Irak, avec Israël et bien sûr rupture totale avec le régime syrien. Le départ au printemps du premier ministre Davutoğlu, remplacé par Binali Yildirim, un proche, très proche du président Erdogan, pouvait laisser croire que le régime turc allait maintenir, voire durcir ses positions en politique étrangère. Mais depuis quelques semaines, les deux têtes de l'exécutif multiplient les gestes d'apaisement. Lettre au président et au premier ministre russe, avancée sur une reprise diplomatique avec Israël ou encore ouverture à l'égard de l'Égypte. Simple exercice de communication ou réel changement de politique étrangère, c'est peut-être surtout par nécessité. Ankara ne peut pas se permettre d'être en froid avec l'ensemble de son voisinage, surtout étant donné les relations désormais glaciales avec l'Europe sur la question des réfugiés et la levée des visas. La Turquie est encore loin, très loin de connaître zéro problème avec les voisins comme le voulait Ahmet Davutoğlu il y a 15 ans, mais la Turquie désormais isolée diplomatiquement semble ces dernières semaines avoir senti le besoin de réchauffer un peu les relations avec son entourage immédiat.
Un carnet de dessins inédit de Vincent Van Gogh a été découvert et fera l'objet d'une publication simultanée en novembre dans plusieurs pays. L'existence de ce carnet a été révélée jeudi par les éditions du Seuil. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila Hamel. La météo cet après-midi relativement belle, des éclaircies sur une majeure partie du pays, avec quand même des risques d'averses du nord à l'Auvergne en passant par l'Île-de-France, des risques d'orages violents localisés en Provence, Côte d'Azur et en Corse. Température pas très élevée, 16 à 20 degrés en moyenne cet après-midi, jusqu'à 25 à Marseille. Merci à Martin Descloseaux pour son aide et Jean-Guilain Meige à la prise de son.